Bonjour, c'est Sema Kelechkaya.
Bonjour Catherine.
Votre roman raconte donc les retrouvailles d'une famille à l'occasion de l'hospitalisation de Baba, donc le père autour duquel se réunissent ses trois filles, ses petits-enfants et sa femme qui souffre d'Alzheimer. Des retrouvailles aussi pour la narratrice Fatma devenue Victoria, car elle est partie aux États-Unis et on a l'impression que c'est pour fuir son identité turque et française. Pourquoi? C'est trop compliqué de vivre entre deux langues, entre deux cultures?
En fait, ce qu'elle a rejeté en partant, c'était l'image négative qui était projetée de sa culture d'origine, mais aussi c'était un petit peu son avenir, l'avenir qui lui était tracé, c'est-à-dire un mariage, même si c'était pas un mariage arrangé, puisque Simon qu'elle a fui, elle l'aimait. Mais elle a préféré échapper à sa culture d'origine dans l'espoir hypothétique et vain de se réaliser ailleurs, aux États-Unis, en fuyant sa culture d'origine.
Mais alors, qu'est-ce que c'est la langue de personne qui donne son titre à votre livre?
Ça renvoie à toutes ces langues qui sont menacées d'anéantissement, qui sont menacées d'oubli, de désintégration, et qui courent le risque d'être englouties dans la bouche d'une autre langue. C'est toutes ces situations qui peuvent être dues soit à l'émigration, soit à la colonisation, à la conquête, à l'asservissement, et qui créent une rupture avec la descendance ou avec les ancêtres. Il y a une image formidable du poète caribéen Derek Walcott. Il compare la langue, cette langue oubliée, à la fumée qui, en s'élevant, oublie la terre d'où pourtant elle s'élève. C'est une image formidable. Et donc la première langue oubliée, cette langue qui est devenue la langue de personne dans le roman, c'est le Zaza, qui est une langue parlée dans l'est de la Turquie.
Et justement, vous dites que, je vous cite, nous les Turcs ne parlons pas la langue de nos ancêtres. Le français non plus n'est pas la langue de mes ancêtres, mais mon rapport à cette langue est plus serein. Pourquoi?
Fatma ne parle plus la langue de ses ancêtres, elle parle le turc, mais étant une enfant de l'immigration et ayant grandi en France, elle parle le français. Si son rapport à la langue française est plus serein, c'est parce que en France, elle trouve peut-être un pays où elle peut se réaliser en tant qu'individu libre.
Oui, parce qu'elle dit, et c'est très poignant, nous sommes toujours les bourreaux. Sous-entendu que effectivement la Turquie et donc la langue turque renvoie toujours à une image, oui, de bourreau. Bourreau dans quel sens?
En fait, quand on vous demande d'où vous venez, que vous dites que vous êtes turc, on vous renvoie toujours à la figure, le génocide des Arméniens, qui n'est pas du tout à contester, il est là, hein, il faut appeler un chat un chat. On vous renvoie à la crise chypriote, on vous renvoie à la figure, cette image du bourreau des Kurdes. Et en fait, on vous rejette à cause de cela, mais dans le cas de Fatma, elle n'est pas turque à l'origine. Mais elle a un passeport turc, ce qui interroge à l'identité. Qu'est-ce qui fait qu'on est turc, qu'on est français? En 2012, un certain président a voulu instaurer un ministère de l'identité. Et qu'est-ce que l'identité? Est-ce que c'est simplement une étiquette? Qu'est-ce que ça signifie d'être turc? Quand vous enlevez l'étiquette, vous vous rendez compte que la situation est beaucoup plus vertigineuse, que derrière l'appellation turque, ça peut être un Laz, ça peut être un arabe de Turquie, ça peut être un assyro-chaldéen. Quand vous dites français, ça peut être quelqu'un qui est au plus haut poste du gouvernement et qui a des origines hongroises, par exemple. Quand vous dites algérien, c'est peut-être un berbère. Donc, qu'est-ce que l'identité? C'est ce que le livre interroge.
Et c'est là où la langue intervient parce que en français, il se trouve que mot, MOTS, est aussi l'homophone de mot, MAUX. Est-ce qu'on peut espérer que la souffrance peut s'apaiser si elle est exprimée par les mots?
Oui, tout à fait. Vous mettez des mots sur vos mots. Donc, c'est une façon d'apaiser la souffrance. Les mots dans le roman sont ici aussi comme des garde-fous, mais au sens propre. Ça empêche de sombrer dans la folie. Et pas simplement les mots, mais aussi l'humour, qui est une façon de faire écran à la souffrance. voilà les mots qui sont inventés, les mots de Damla, la nièce, les mots du petit jeune Ali, les mots de Baba, les mots des voisins aussi, qui sont toujours là en train d'inventer, et que la narratrice récupère, récolte et collectionne dans son petit carnet, ils sont là pour l'empêcher de dérailler, en fait.
En tout cas, ce qui est très joliment raconté aussi ici, c'est une espèce de boucle familiale avec cette fille qui a trop de mots et qui remplit les cases vides de sa mère qui est en train de perdre ses mots. Et le père, lui, invente des mots. Et vous finissez avec cette très belle formule. Finalement, c'est la langue qui fait de nous des personnes.
Oui, exactement. Alors, on passe, en fait, c'est passer de la langue de personne. L'étape suivante, c'est la langue des autres. À partir du moment où vous n'avez plus votre langue, ce sont les autres qui vous définissent et qui racontent votre histoire. Et le défi pour les personnages ici, c'est trouver une langue, la langue de tous. Donc cette langue qui va pouvoir servir de passerelle, de pont pour aller vers les autres. Ça va être la langue de la conciliation, la langue de la réconciliation. Un petit peu une langue arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la réconciliation. Et le défi ultime, plus sur le plan individuel, c'est cette langue qui fait de nous, effectivement, des personnes, qui peut nous permettre d'atteindre la dignité. Et en fait, tout le défi, c'est d'arriver à ce que un autre poète disait, un poète turc, exilé en URSS à l'époque, il disait « Notre rêve, c'est de pouvoir vivre comme un arbre, seul et libre, de vivre comme une forêt en frère. » Voilà. Et en fait, c'est le rêve des personnages.
Et le rêve de tous,
non ? Et le rêve de tous.
Merci beaucoup, Sema Kılıçkaya. Je rappelle que votre livre s'intitule « La langue de personne » et qui vient de paraître aux éditions Emmanuel Colas.